Europe Soir,
le 18-20.
Isabelle Millet.
Et on est ensemble jusqu'à 20h sur Europe 1, avec dans un instant le journal bien sûr, et puis juste après on ouvrira ensemble, comme tous les soirs, le débat du Club des Idées. Et on va s'intéresser au mystère du Covid long. Ces malades dont les symptômes persistent parfois pendant plusieurs mois, ils viendront témoigner ce soir en direct sur Europe 1, nous dire combien ils aimeraient enfin qu'on les prenne au sérieux. L'OMS s'est penchée sur la question cette semaine, la Haute Autorité de Santé également aujourd'hui, et manifestement les choses sont en train de bouger. Nous aurons également des médecins, bien sûr, avec nous dans ce studio pour ce débat. Rendez-vous donc à partir de 19h20. Juste avant, ce sera la carte blanche d'Éric Emmanuel Schmitt qui reviendra sur le débat d'hier soir. On en parlait à l'instant avec les grandes voix, Marine Le Pen et Gérald Darmanin, mais il y reviendra à sa façon. D'abord, le point sur l'info avec vous, Christophe Lamarre. Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
Il y avait consensus entre tous les élus pour lui demander l'avancée des vacances scolaires, c'est-à-dire à ce soir. Et là, la réponse n'était pas prête. On l'attend.
La déception du maire de Metz qui réclamait de mettre les écoliers du département en vacances dès ce soir. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, veut se laisser du temps pour décider.
La Moselle face aux variants sud-africains et brésiliens. 300 cas de contamination recensés en 4 jours dans ce département.
Et au-delà du maire de Metz, plusieurs voix s'élèvent pour réclamer des mesures immédiates. Certains élus demandent un confinement local ou une fermeture des écoles.
Les effets indésirables du vaccin d'AstraZeneca. Certains soignants notamment se plaignent de maux de tête et dans les hôpitaux, forcément, ça pose quelques problèmes d'organisation.
Dans ce journal, le procès de Georges Tron qui doit répondre d'accusations de viol en réunion à la barre. L'ancien secrétaire d'État a nié les faits qui lui sont reprochés.
L'Iran débute la production de l'uranium métal. Inquiétude de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui dénonce une violation des accords internationaux. On en parlera avec Didier François. Évidemment, notre spécialiste des questions internationales dans ce journal.
Les victoires de la musique ce soir, une cérémonie particulière, Covid oblige. Peu de journalistes, peu d'invités. Les artistes vont se produire dans une salle quasiment vide.
La météo, on vous retrouve. Anissa Haddadi, attention, des pluies verglaçantes, il y en aura encore demain.
Oui, et particulièrement en Bretagne, Isabelle, sur l'Ille-et-Vilaine, les Côtes d'Armor ou encore le Finistère. Les routes seront glissantes, prudence demain. Toujours de nombreux départements en vigilance grand froid également dans le nord-est. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Plus de tests, 2000 vaccins supplémentaires pour la Moselle. Olivier Véran à Metz cet après-midi. Le ministre de la Santé qui, pour le reste, laisse en suspens la question d'avancer les vacances scolaires d'une semaine.
Je vais désormais continuer la consultation et notamment discuter de la question des écoles avec mon homologue de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Et je me suis engagé à revenir très rapidement vers les élus du territoire pour envisager avec eux de pousser la concertation sur des mesures éventuelles si nous estimions qu'elles devaient être nécessaires.
Le ministre de la Santé, Olivier Véran, donc au micro européen de Diane Berger, que l'on retrouve à Metz. Alors Diane, après cette visite du ministre, comment réagissent les élus sur place ?
Oui, dans la cour de la préfecture, François Grosdidier est assez déçu. Lui espérait des annonces tout de suite, à minima une fermeture des écoles, une piste qui n'est pas exclue par l'exécutif. Mais Olivier Véran veut attendre avant de prendre des mesures, une perte de temps pour le maire de Metz.
Il y avait consensus entre tous les élus pour lui demander l'avancée des vacances scolaires, c'est-à-dire à ce soir. Et là, la réponse n'était pas prête. On l'attend parce que derrière, les collectivités devront s'organiser pour pouvoir accueillir les enfants des soignants.
Prolonger les vacances, c'est aussi le souhait de Patrick Weiten, le président du conseil départemental. Mais alors que la voiture du ministre quitte la préfecture de Moselle, lui se montre plus satisfait des échanges.
S'il avait pris une décision sans qu'il y ait une véritable concertation, on lui aurait reproché. Là, il vient nous écouter, il a pris le temps, il a noté, on a pu échanger. Donc moi, je suis ravi qu'il y ait eu cette concertation. Maintenant, on attendra les conclusions, les décisions, et puis reste, on s'y soumettra.
Des décisions que l'élu espère connaître ce soir ou demain matin maximum. En attendant, il salue les efforts promis pour la vaccination.
Diane Berger à Metz pour Europe 1. On en vient à cette alerte de l'Agence du médicament. Le vaccin AstraZeneca provoque quelques effets secondaires après la première injection.
Oui, des maux de tête, de la fatigue, de la fièvre. Certains soignants se sont plaints d'effets secondaires. L'Agence du médicament a relevé 150 cas en une semaine. La moyenne d'âge est assez basse, 34 ans en moyenne. Victor Dolande, les effets indésirables, c'est assez classique. Mais ça pose quand même quelques problèmes d'organisation dans les hôpitaux.
Oui, il faut savoir déjà qu'il y a de plus en plus de foyers de contamination au sein des hôpitaux ces dernières semaines, ce qu'on n'avait pas vu lors de la première vague. Des soignants positifs au coronavirus et donc maintenant des personnels cloués au lit à cause du vaccin AstraZeneca. comme l'explique Thierry Amouroux, porte-parole du syndicat national des professionnels infirmiers.
C'est un syndrome grippal avec une fièvre élevée, des courbatures. Les hôpitaux étaient dans la logique de vacciner tout un service un jour donné. Donc se sont retrouvés le lendemain avec 15% de l'effectif arrêté. Donc du coup, il y a un certain nombre d'établissements qui ont suspendu la vaccination AstraZeneca pour se réorganiser.
C'est le cas déjà à Saint-Lô, Brest, Morlaix et dans deux hôpitaux parisiens. L'agence du médicament recommande d'ailleurs d'espacer les injections au sein de chaque service, de ne plus vacciner tous les soignants en même temps. Des effets secondaires qui n'incitent pas en tout cas les médecins, infirmiers et aides-soignants à recevoir le sérum AstraZeneca. Il faut dire qu'ils étaient déjà un peu sceptiques sur ce vaccin moins efficace contre les variants sud-africains et brésilien. À noter également une alerte pour le vaccin Pfizer. 73 personnes vaccinées ont été touchées par une hypertension subite. Ça a été de courte durée, mais l'agence du médicament surveille ça de très près.
Victor Dolande, alors il y a quand même un espoir, même s'il faut rester prudent. La Haute Autorité de Santé estime qu'une seule dose de vaccin suffit pour les patients qui ont déjà été infectés.
Pour l'instant, il ne s'agit que d'un avis, mais il pourrait faciliter et même accélérer la campagne de vaccination. Alors attention, cette dose à usage unique ne s'appliquerait que dans des cas très précis, comme nous le confirmait notre invitée à 18h, Elisabeth Bouvet. Elle est la présidente de la commission technique de vaccination de la Haute Autorité de Santé.
Beaucoup de gens ont déjà remarqué que les personnes qui avaient déjà été infectées, quand on les vaccinait, eh ben, ils remontaient très très vite leurs anticorps, comme s'ils avaient déjà eu une première dose de vaccin. Donc, il nous paraît logique de ne proposer qu'une dose de vaccin chez ces personnes-là. Et en plus, ce qui nous paraît important aussi de signaler, c'est qu'il n'y a pas de raison de les vacciner rapidement après l'infection, puisqu'ils sont protégés au moins pendant 3 mois, probablement au moins 6 mois. Quelqu'un qui aurait eu le Covid il y a 9 mois, par exemple, si on considère qu'il faut le vacciner maintenant parce qu'il a des facteurs de risque, eh bien, on ne lui fera qu'une dose de vaccin.
Elisabeth Bouvet, présidente de la commission technique de vaccination de la Haute Autorité de Santé, invitée du journal de 18h. Le Covid toujours, mais à l'étranger, le Royaume-Uni est tout près du cap des 15 millions de vaccinés. On parle des personnes qui ont reçu la première des deux injections de vaccin anti-Covid. C'était l'objectif que s'était fixé Boris Johnson pour la mi-février, le Premier ministre qui espère pouvoir assouplir progressivement le confinement à partir du mois de mars.
Europe 1, 19h06, l'Assemblée nationale poursuit l'examen du projet de loi confortant les principes républicains, ce qu'on appelle aussi la loi contre les séparatismes.
Oui, discussion très animée cet après-midi à propos de l'article 21 sur l'instruction à domicile. Débat houleux, mais l'article est adopté. Désormais, l'école à la maison sera l'exception et il faudra impérativement une autorisation préalable de l'État.
À Bondy, en région parisienne, le tribunal administratif annule l'élection municipale.
Stéphane Hervé, pour les Républicains, l'avait emporté de 64 voix sur la maire sortante, la socialiste Sylvine Thomassin. Cette dernière avait accusé son adversaire d'avoir diffusé des tracts quelques jours avant le scrutin. Tracts l'accusant notamment de népotisme sans qu'elle ait le temps d'y répondre. Une manœuvre qui a faussé le résultat du scrutin, estime le juge.
Le procès en appel de Georges Tron, l'ancien secrétaire d'État, acquitté en première instance et qui est accusé de viol sur 2 anciennes collaboratrices.
Oui, cela fait maintenant 9 heures que Georges Tron est interrogé. L'ancien secrétaire d'État et maire de Draveil a commencé à répondre aux questions des juges. Et depuis ce matin, il nie avec force les accusations portées contre lui, Marion Dubreuil.
Oui, quand il est interrogé sur la dizaine de scènes de viol et d'agressions sexuelles dénoncées par Eva Loubrieux, Georges Tron s'énerve. Ça se serait passé 2 fois par semaine et elle n'est pas capable de sortir une date où elle pourrait dire « Monsieur Tron m'a bloqué dans son bureau, il m'a collé sur la moquette et on a fait une forme de kamasutra ensemble ». Le maire de Draveil explique qu'on l'avait mise en garde contre la jeune femme. Il s'attarde sur ses tenues provocantes, sa voix charmeuse, les messages insistants qu'elle lui a adressés et qu'il a fait consigner par huissier. J'ai du mal à comprendre, explique la présidente. Eva Loubrieux est en CDD, elle vous harcèle sexuellement, n'obtempère pas à vos demandes d'arrêter, et pourtant elle est promue. J'ai été imprudent, répond l'accusé, et certainement ça me flattait. Georges Tron paraît embarrassé quand la présidente le confronte aux écoutes de sa maîtresse, la seule relation extra-conjugale qu'il reconnaît. En octobre 2011, elle dit à une collègue de la mairie de Draveil « Loubrieux est peut-être une salope, mais quand elle parle d'emprise, je la comprends. Elle jouait un double jeu », affirme Georges Tron. « Elle prêchait le faux pour savoir le vrai. C'est grâce à elle que j'ai pu savoir qui m'avait trahi. »
Marion Dubreuil en direct du Palais de Justice de Paris.
Et dans l'actualité, ce soir, l'Iran qui relance pas à pas son programme nucléaire. Et oui, c'est le constat de l'Agence internationale de l'énergie atomique.
Et oui, ces inspecteurs constatent que la République islamique a lancé la production d'un nouveau composant à usage militaire.
Et on en parle forcément avec notre spécialiste des questions internationales. C'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Ce qui se passe, Didier, c'est une violation claire des engagements pris par Téhéran.
Et oui, parce que ce qu'ont découvert les inspecteurs de l'AIEA, ce sont 3,6 grammes de métal d'uranium. Alors certes, en termes de volume, ça reste très échantillonnaire. Seulement, cet échantillon a été produit localement dans une usine d'Ispahan. Ce qui veut dire que désormais, les Iraniens maîtrisent ce savoir-faire absolument indispensable à la fabrication d'une bombe atomique. D'ailleurs, ça peut pratiquement servir qu'à ça. Et à terme, ils pourront donc en produire autant qu'ils veulent. Et ça, c'est inquiétant. Surtout que cette nouvelle violation s'inscrit dans une trajectoire qui, depuis quelques mois, indique une militarisation croissante du programme nucléaire iranien avec le passage du taux d'enrichissement de l'uranium à 20% et l'augmentation du stock de matières fissiles. Donc grosso modo, la République islamique se place en capacité de disposer de tous les éléments nécessaires à l'assemblage d'une bombe atomique d'ici moins d'un an et d'une arme opérationnelle d'ici moins de deux ans, si jamais elle décidait de s'en doter. Ce qui à ce stade n'est pas encore un choix totalement assumé par le régime.
Alors, ce qui laisse quand même encore un petit peu de temps pour la négociation, non ?
Voilà, en tout cas, l'objectif affiché des Iraniens, c'est de forcer les États-Unis à revenir au plus vite dans l'accord de 2015, vous savez, qui prévoyait la levée des sanctions économiques contre l'Iran en échange d'un abandon de son programme nucléaire militaire. Le problème étant que Donald Trump a rejeté ce compromis en 2018 et que les Iraniens, dès lors, se sont trouvés toujours sous embargo. Leur stratégie de riposte a donc été d'organiser une violation graduée des règles de l'accord, les stocks, l'enrichissement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve devant un nouveau problème. Joe Biden, nouvellement élu, est prêt à reprendre les négociations, mais il exige des Iraniens qu'ils reviennent à leurs obligations avant d'ouvrir les discussions, alors que les Iraniens, eux, ils demandent qu'ils fassent la preuve de sa bonne volonté en levant d'abord les sanctions américaines. On est donc pour l'instant dans ce bras de fer, ce dialogue de sourds, en attendant que les diplomates des deux pays trouvent une façon adéquate de reprendre l'angle, le risque étant que le dérapage iranien, qui pour l'instant est assez contrôlé, parte finalement en toupie sous la pression des radicaux du régime et qu'on se retrouve avec un nouvel arsenal nucléaire.
Bon, vous allez suivre ça pour nous évidemment. Merci, c'était l'œil de Didier François comme tous les soirs dans ce journal de 19h. Merci Didier. L'ONU convoque une session extraordinaire sur la situation en Birmanie.
Le Conseil des droits de l'homme va interroger notamment la position de la Russie et de la Chine qui ont l'habitude de soutenir l'armée birmane. Les manifestations se poursuivent dans plusieurs villes de la Birmanie. De nombreux fonctionnaires se sont d'ailleurs mis en grève malgré les menaces de la junte militaire au pouvoir.
Allez, on va terminer ce journal en musique, Christophe, avec la 36e cérémonie des Victoires de la musique. C'est ce soir.
Eh oui, Aya Nakamura, Benjamin Biolay et Gaël Faye sont les têtes d'affiche de cette cérémonie. Mais on ne sait pas encore si l'ambiance sera vraiment à la fête. Mesures sanitaires obligent. Dans ces conditions, Angèle Châtelier, on se demande à quoi va bien pouvoir ressembler cette cérémonie.
Eh bien, du live, c'est le fil rouge de cette édition particulière. Comme pour se consoler de ne pas avoir pu y goûter cette année, là je me trouve dans les coulisses de la scène musicale où sont installés les journalistes face à deux télés, car dans la salle, ce n'est que pour les artistes et les techniciens. Pas de public cette année, alors pour ne pas que ça paraisse trop vide, il y a des lumières près des sièges, deux rangées à gauche et à droite, et au milieu dans la fosse, un gigantesque orchestre d'une trentaine de musiciens. Mais sachez quand même que le programme est riche. C'est Jean-Louis Aubert qui ouvrira la cérémonie, accompagné de danseurs. J'ai aussi pu entendre les répétitions de Clara Luciani qui rendra hommage à Juliette Gréco. Et puis attendez-vous à voir des jeunes danseuses en tutu et en veste en cuir. Bref, tout sera fait pour combler le manque de concerts, puisque tous les artistes nommés se produiront à partir de 21h. Benjamin Biolay, grand favori, nommé dans trois catégories. Isolde aussi, Julien Doré. Et puis trois artistes rendront honneur à Jane Birkin, Eddie Depreto, Thomas Dutronc et Étienne Dao. La chanteuse est l'invitée spéciale de cette 36e cérémonie des Victoires de la musique.
Un petit peu de musique, ça fait
on
du bien.
On adore Jane Birkin, bien sûr, bien sûr. Malgré la drôle d'ambiance, donc, aux Victoires de la musique
sans public,
ce soir.
C'est quand même assez curieux. Et c'est justement, tiens, Isabelle, cette absence de public qui désole les artistes. Pas de concerts, des festivals qui apparaissent menacés. Solidez a préféré annuler son rendez-vous cette année. Benjamin Biolay en appelle à la ministre de la Culture.
Et oui, c'était ce matin sur Europe 1, vous l'avez peut-être entendu. Il était l'invité de Mathieu Béliard et il s'inquiète beaucoup, évidemment, du sort qui est réservé aux artistes en ce moment. Il demandait, Benjamin Biolay, officiellement un débat à la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot.
Notre ministre de tutelle est un peu absente, sauf pour nous rabrouer quand on dit des bêtises, mais bon, on n'a pas besoin de ministre pour comprendre qu'on dit des conneries. Ce serait un long débat que j'aimerais avoir un jour.
Vous aimeriez qu'on organise ça sur Europe 1 un matin, vous, Madame Bachelot, un débat ?
Oui, oui, tout particulièrement, oui, avec en l'occurrence Madame Bachelot, parce que c'est la ministre de la Culture, ouais, moi, je serais tout à fait favorable. Une antenne un peu ouverte où on puisse au moins se parler.
Alors, nous avons lancé l'invitation à Roselyne Bachelot, mais la ministre de la Culture a refusé de venir s'expliquer à notre micro, en tout cas de débattre. Avec
dommage.
Benjamin
on a
Biolay.
Demandé en tout cas, c'est promis Benjamin Biolay, si vous nous écoutez ce soir encore.
C'est promis. Allez, un mot de sport, il n'y a plus de Français dans le tableau masculin de l'Open d'Australie. Adrian Manarino a été éliminé, Fiona Ferro aussi dans le tableau féminin, mais il reste Kristina Mladenovic qui joue ce soir.
Et on suivra ça, notamment dans le journal de 22h avec Julien Pierce. Ça, c'était le journal de Christophe Lamarre. On vous souhaite un très bon week-end, Christophe, merci. Anissa Haddadi, eh ben quoi, qu'est-ce qu'on apprend ? Une nouvelle perturbation nous arrive par l'ouest, hein, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Hein.
Alors vous savez que derrière les mauvaises nouvelles se cachent souvent des bonnes nouvelles en météo, donc enfin en tout cas j'essaye d'en trouver. Cette perturbation, elle sera peu active, c'est-à-dire qu'elle va apporter beaucoup de nuages mais très peu d'eau. Attention tout de même aux pluies verglaçantes sur la Bretagne hein, qui seront encore très présentes demain. Prudence, la Charente est toujours en vigilance orange crue. Et puis au fil des heures, vous parliez de cette perturbation Isabelle, effectivement elle va apporter des nuages de la Normandie jusqu'au Pays Basque, un ciel très couvert sur la moitié ouest. Sur la moitié est, en revanche, le ciel est lumineux,
bon,
ensoleillé,
c'est au moins ça.
Mais toujours dans un froid persistant, puisque nous avons 11 départements du Grand Est placés en vigilance grand froid, avec moins 10 degrés, par exemple, demain matin, Strasbourg.
Et donc, ça glisse, attention sur
oui,
les routes. Hein.
Prudence.
Merci beaucoup, Anissa, on vous souhaite un très bon week-end.
Bon week-end.
19h15 sur Europe 1. On va s'intéresser dans un instant au Covid long. Non, ce ne sont pas des malades imaginaires. Alors, comment faire pour les aider ? On voit ça dans 3 minutes, mais d'abord, c'est la carte blanche du jour.
Europe Soir, Isabelle Millet.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide. C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Et ce soir, c'est Éric Emmanuel Schmitt qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonsoir.
Bonsoir Isabelle Millet.
Alors, hier, une chaîne du service public nous a proposé un débat entre Marine Le Pen, dirigeante du Rassemblement National, et Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. On en parlait d'ailleurs il y a quelques instants avec les grandes voix. Et c'est un débat que, depuis ce matin, tout le monde commente. Et vous aussi.
Oui. Parce que quelque chose s'est passé, quelque chose a basculé. Au XXe siècle, ça arrivait tous les 7 ans. Au XXIe siècle, tous les 5 ans. Voilà, c'est parti. Je vous annonce le retour de Nostradamus.
Qu'est-ce que vous voulez dire ? De qui parlez-vous ?
Au pire, je vous annonce le retour des Nostradamis, car ils sont plusieurs et nombreux. Ben oui, je parle des prophètes, ceux qui prévoient l'avenir. Jusqu'ici, dans les médias, nous avions des journalistes politiques, arrimés au réel, l'œil sur les chiffres et les statistiques. Désormais, nous avons des prophètes. La course à la présidentielle est lancée. Les journalistes politiques ne vont plus parler de ce qui est arrivé ou de ce qui arrive. Non, ils vont parler de ce qui risque d'arriver. À partir de maintenant et durant de longs mois, ils ne décriront plus la réalité, ils décriront la virtualité. Le commentaire des possibles remplace désormais le commentaire des faits.
Ça veut dire que vous condamnez l'analyse politique ?
Il me semble qu'on analyse ce qui est. Non, ce qui n'est pas encore et ne sera peut-être jamais. Je vous assure que nos experts politiques les plus sérieux garderont leur apparence de sérieux, mais sous le masque, ils vont laisser place à leur imagination. Et avec bonne foi en plus, ils croiront se consacrer au réel, tandis qu'ils s'évaderont dans le virtuel. Ah, quel suspense ! Tous les discours vont se remplir de « et si ?» au cas où ?« Et si ?» Et si Marine Le Pen et Emmanuel Macron se retrouvent au second tour ? Et si Anne Hidalgo fait une percée à gauche ? Et si Emmanuel Macron ne se représente pas ? Et si c'est enfin l'heure de Jean-Luc Mélenchon ? En fait, les journalistes politiques vont révéler une de leurs faces cachées, le goût du romanesque. Car en ces ingénieurs du réel, formés à Sciences Po, se tapissent des parieurs, des turfistes, des Cassandres et des Nostradamus.
Vous êtes bien moqueur ce soir, Éric Emmanuel. Hein ?
La moquerie me permet de rire de ce qui m'attriste. Lors des épisodes précédents, je me souviens de ce que j'ai entendu. En parlant de Sarkozy, des éditorialistes affirmèrent que les Français n'éliraient jamais un président juif. En parlant de Hollande, qu'ils n'éliraient jamais un homme non marié. En parlant de Macron, qu'on ne saurait être élu président sans un parti politique antérieur, puissant et solide. D'ailleurs, je suis content Isabelle, parce que ces commentateurs qui m'ont fort diverti sont toujours là et ils commenteront la prochaine présidentielle. Ouf.
J'ai plutôt que l'impression que votre moquerie révèle en fait votre sévérité.
Pas du tout, Isabelle, car je vais vous faire une confidence, j'aime ça. J'aime l'imagination, j'aime la fantaisie. En tant que romancier et dramaturge, je sais combien c'est exaltant et difficile. Je m'amuse donc beaucoup de voir enfin les journalistes gambader allègrement dans les champs de l'irréel. Ça me soulage et je me sens moins seul. Et puis, c'est léger, c'est agréable, c'est sans importance puisque ça n'existe pas. Ça n'oppresse pas comme la réalité. Seulement...
Seulement quoi ?
Seulement, ça va encore creuser un écart. L'écart entre ce dont on parle et ce dont on ne parle pas. Ce dont on parle, le futur. Ce dont on ne parle pas, le présent. Cette course à la présidentielle nous passionnera sans doute. Mais elle va écraser d'autres sujets, écarter les problèmes graves, les difficultés profondes. En fait, je redoute l'inflation de cette parole prédictive et politicienne. On va parler pour ne pas voir, parler pour ne pas écouter, parler pour se dire qu'on agira sans agir, parler pour estimer qu'on change alors qu'on ne transforme rien.
Et pourtant, le débat, il est important, hein ?
Il est essentiel. Mais il ne faut pas confondre le débat et le spectacle du débat. Or, le personnel politique, en accord avec les médias, va privilégier le spectacle. Pendant des mois, nous allons mettre l'action sous cloche, la réserver pour après, comme si l'élection attendue, l'élection guettée, l'élection si ardemment commentée allait résoudre nos problèmes. Selon moi, elle ne résoudra qu'un problème, celui de l'élection. La politique ne sert pas toujours la politique.
Bon, j'espère que mes collègues du service politique d'Europe 1 vous auront écouté. Merci en tout cas, c'était la carte blanche d'Éric Emmanuel Schmitt ce soir sur Europe 1.
Europe 1, Isabelle Millet.
Et dans un instant sur Europe 1, votre club des idées consacré au Covid long. Nous accueillerons Mélissa, Bianca et Karine. Elles veulent comprendre, elles veulent aussi qu'on les aide. Des médecins seront à mes côtés pour les guider dans ce parcours du combattant. 19h21, c'est l'heure de votre débat du club des idées sur Europe 1. Et ce soir, on s'intéresse donc au mystère du Covid long. Vous en avez forcément entendu parler. On ne sait toujours pas vraiment pourquoi certains malades atteints du Covid affichent pendant plusieurs mois après des symptômes avec une fatigue extrême, des difficultés respiratoires, des troubles neurologiques et cardiaque, parfois très sévère. Pour la première fois cette semaine, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a consacré un séminaire à cette question des Covid longs, qui sont de plus en plus pris en considération par les médecins, il faut le dire, même si ces derniers restent, on va le voir, encore démunis face à des symptômes très variés. Cet après-midi, la Haute Autorité de Santé en France a publié une sorte de petit guide, on va y revenir également, pour aider les médecins. Alors l'idée, ça n'est surtout pas de vous plomber le moral ce soir, je sais que certains d'entre vous sont ou partent en vacances, c'est juste de faire une petite piqûre de rappel. On en a parfois assez des gestes barrières, on a l'impression que ça n'arrive qu'aux autres et que quand on a 20 ou 40 ans, ça n'est qu'une petite grippette. Et bien vous allez voir qu'on peut être en pleine forme, sportif, mince, dynamique et du jour au lendemain sombrer dans quelque chose qui nous dépasse et qui nous terrasse. On en parle donc ce soir avec mes invités en direct dans ce studio. Dominique Salmon-Céron, infectiologue et professeur des maladies infectieuses et tropicales à l'Hôtel Dieu à Paris. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous tenez une consultation dédiée justement à ces patients Covid long. Vous avez coordonné aussi une étude sur la question. Vous avez donc une vraie expérience et connaissance du sujet. Également, Cécile Monteil, pédiatre urgentiste à l'hôpital Robert Debré à Paris, membre du conseil scientifique de l'association Tous Partenaires Covid, qui mène également une étude sur les Covid longs. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Nous allons tout au long de cette émission nous appuyer sur des témoignages, donner la parole à ces femmes, à ces hommes et à ces enfants qui souffrent parce qu'il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe et pas de prédisposition. Je rappelle ce chiffre. 10% des anciens patients ressentent toujours des symptômes jusqu'à 9 mois après la maladie. Je voudrais d'abord qu'on écoute ensemble le témoignage de Mélissa, qui est en ligne avec nous depuis Calais. Bonsoir Mélissa.
Bonsoir.
Merci beaucoup vraiment d'être avec nous en direct ce soir. Alors vous avez 35 ans, vous êtes maman d'un petit garçon de 4 ans et vous avez eu le Covid le 10 mars dernier avec les symptômes, je dirais, classiques, forte fièvre, fatigue, perte du goût et de l'odorat, douleurs musculaires. Au bout de 15 jours, on vous a détecté des problèmes aux poumons. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ?
Alors ce qui s'est passé, c'est que voilà, au bout de 15 jours, je ne m'alimentais toujours pas. J'arrivais toujours pas à m'alimenter. La fièvre était toujours là, donc j'ai consulté à nouveau mon médecin en fait, en présentiel, hein, parce qu'on avait recours à la téléconsultation jusqu'alors, mais voilà, là j'avais besoin d'une vraie consultation. Et donc à l'auscultation, en fait, il a entendu qu'il y avait un problème au poumon, et donc il m'a envoyé directement en fait à la sortie de cette consultation aux urgences avec un courrier pour qu'on puisse me passer un scanner. Et donc voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée à l'hôpital, puisque à l'issue du scanner, on m'a gardée en observation.
Bon, et tous ces symptômes, Mélissa, on va essayer d'avancer un petit peu dans le temps, ils ont duré combien de temps ?
Alors, les symptômes, je dirais, de la phase aiguë, la phase où on est vraiment au cœur de la maladie, de la maladie, ils ont bien duré 6 semaines.
Oui, c'est beaucoup.
Semaines,
hein.
Avec voilà, des oppressions thoraciques, des fébricules, le cœur qui pulse, des troubles digestifs. Enfin, c'était vraiment très très long. Je n'en voyais pas le bout. Mais bon, donc 6 semaines, ouais, sur cette phase.
Et ça s'est amélioré progressivement?
Ça s'est un petit peu amélioré, c'est-à-dire que il y avait toujours la fatigue qui était là, etc. Mais j'avais plus les coups de poignard dans les poumons, etc. Enfin, voilà. Donc il y avait un petit peu de mieux.
Sauf que si vous êtes là avec nous ce soir, c'est parce qu'aujourd'hui, manifestement, ça ne va pas mieux, Mélissa. Comment vous sentez-vous presque un an après le déclenchement de ces premiers symptômes?
Oui, j'entendais tout à l'heure 9 mois, j'en suis à 11 mois. Ouais. Donc voilà, je suis un petit peu plus. Mais j'attends toujours de retrouver mon état avant Covid. J'ai toujours des problèmes de tension, j'ai toujours de gros essoufflements, j'ai toujours un tas de symptômes qui arrivent par vague en fait. C'est par vague. La dernière qu'on appelle un peu, enfin, j'appelle ça des rechutes. Ma dernière rechute, elle remonte au mois d'octobre. Je suis restée 4 semaines clouée au lit.
Ah oui.
Avec des douleurs énormes.
Et là, vous êtes toujours en arrêt maladie actuellement?
Alors là, j'ai repris au 1er février en mi-temps thérapeutique cette fois-ci. Donc on va essayer de reprendre une vie dégradée, mais une vie quand même. On va essayer.
Bon. Mélissa, vous allez rester avec nous, évidemment. On vous reprend dans un petit instant. Je voudrais que les médecins qui sont à mes côtés réagissent à votre témoignage. J'imagine que vous n'êtes pas surpris parce que vous venez d'entendre des Mélissa vous envoyer régulièrement, docteur Salmon-Séron, non ? Dans votre consultation.
Oui, c'est vrai que les signes décrits par Mélissa sont tout à fait caractéristiques de ces formes prolongées. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer ce virus. Hein. On a tendance à se dire que c'est un virus qui est virulent à la phase aiguë, mais que les jeunes, on n'a rien à craindre. Mais pas du tout. Des tableaux comme Mélissa, on en voit quelques-uns. Bon, son tableau est particulièrement sévère et je pense que c'est pour ça que vous l'avez invité. Il y a beaucoup de gens qui ont des petites séquelles et puis ça finit par passer. Mais...
Enfin, il y a quand même un pourcentage important de malades du Covid qui ont des séquelles sur le très long terme. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein.
Oui, votre taux de 10% est tout à fait vrai. Alors peut-être qu'à 9 mois, c'est moins. C'est 10% entre 3 et 6 mois, d'après les études qu'on a. Hein. Mais c'est 10% au total. C'est-à-dire que 10% des gens ont au moins un symptôme. Certains ont par exemple un trouble de l'odorat, d'autres une fatigue. Et puis, un petit pourcentage, c'est le sommet de l'iceberg, sont vraiment extrêmement fatigués, comme
Mélissa. Et cumulent plusieurs facteurs.
Voilà. Ce qui est quand même encourageant, c'est qu'elle va mieux. C'est pas encore ça.
Elle va nous donner de ses nouvelles encore tout à l'heure. On va la reprendre, Mélissa, évidemment. Ce qui est déconcertant avec ce Covid long, c'est le profil des patients qui en souffrent, hein, Cécile Monteil. Souvent, ce ne sont pas les plus vulnérables, les personnes âgées ou celles qui ont déjà des maladies chroniques, comme on pourrait l'imaginer. Hein. Mélissa, elle a 35 ans, elle était en pleine forme.
Oui, et effectivement, c'est tout à fait le cas. Alors, effectivement, chez les patients hospitalisés, les études montrent qu'il y a aussi des séquelles qui sont parfois plus importantes quand ils ont été hospitalisés. Mais,
ce qui n'est pas le cas de Mélissa, en l'occurrence.
Mais ce n'est pas pour ça que ça ne touche pas les personnes qui sont jeunes, sans facteur de risque à la base et qui n'ont absolument pas été hospitalisées. Un des facteurs de risque qu'on a pu montrer, c'est quand il y avait plus de 5 symptômes lors de la phase initiale du Covid. Mais après, ça peut être des gens effectivement qui ont 20 ans, 30 ans et qui normalement sont considérés un petit peu comme hors de risque. Finalement, le Covid chez les jeunes, c'est pas grave.
Eh bien non,
exactement. Il peut y avoir des formes graves. Heureusement, ces formes prolongées ne touchent pas la majorité des
bien
patients.
Sûr. Bon.
Quand même voir le côté positif.
Heureusement. Alors, on va se retrouver dans un instant pour poursuivre ce débat. Mélissa a encore beaucoup de choses à nous dire, me semble-t-il, notamment sur son état d'esprit. Comment vit-on avec un Covid long? On appellera aussi Bianca et Karine qui, elles aussi, ont vécu et continuent à vivre avec cette maladie non encore très bien identifiée. C'est bien ça le problème. À tout de suite. 19h31, de retour dans votre débat du Club des idées sur Europe 1. Vous savez qu'on parle ce soir des Covid longs. Ces symptômes qui persistent parfois plusieurs mois après avoir déclaré la maladie. À mes côtés dans ce studio, Dominique Salmon-Séron, qui est infectiologue et professeur de maladies infectieuses et tropicales à l'Hôtel Dieu à Paris, qui tient également une consultation dédiée aux patients Covid long, et Cécile Monteil, pédiatre urgentiste à l'hôpital Robert Debré à Paris, membre du conseil scientifique de l'association Tous Partenaires Covid, qui mène aussi une étude sur les longs Covid. Nous étions en ligne et nous allons la retrouver tout de suite avec Mélissa depuis Calais. Mélissa, vous êtes toujours avec nous. Je rappelle que vous avez 25 ans. Vous nous disiez tout à l'heure que vous êtes aujourd'hui...
35 ans,
oui, pardon, c'est moi. J'ai marqué 35 sur ma feuille. Je vous ai rajeuni. Vous nous disiez tout à l'heure que vous étiez aujourd'hui très fatiguée encore. Votre mari et votre fils ont également eu le Covid, mais moins sévèrement que vous. Votre fils qui a 4 ans. Alors, on dit souvent que les enfants sont épargnés. Quels étaient ses symptômes à lui ?
Alors lui, là, ça a commencé en fait pour lui par une très très forte fièvre. Il a eu beaucoup de vomissements pendant 2 jours. Il n'a fait que vomir. Il était vraiment mal. Il était vraiment mal. Il n'était pas sur une forme asymptomatique.
C'est une version intestinale du virus, hein, comme ça peut exister.
Ouais, il s'est pas alimenté pendant quasiment 10 jours, mon fils.
Ah oui.
Donc c'était au sucre. J'ai eu très très peur aussi pour lui.
Mais aujourd'hui, il va mieux, votre petit garçon.
Il va mieux.
Bon.
Ouais,
donc, donc lui n'est pas concerné et votre mari non plus par ce Covid long. Vous nous disiez donc vous étiez encore très fatigué. Vous avez des vertiges, des essoufflements, c'est ça, des pertes de mémoire aussi.
C'est ça.
Des difficultés
c'est ça,
à vous concentrer.
De mémoire, difficulté à me concentrer, par moments des odeurs fantômes, des maux de tête, cette fatigue extrême, cette tension qu'on a du mal à stabiliser. C'est un panel, un éventail de symptômes extrêmement large, avec toujours un symptôme finalement qui prend le dessus en fait.
C'est-à-dire que vous passez de l'un à l'autre et il y en a un qui devient plus fort et qui prend le pas sur l'autre, c'est ça ?
C'est exactement ça en fait. On se lève le matin sans savoir ce qui va nous arriver et comment on va passer la journée et si le lendemain on sera capable de se lever.
Au-delà de ces douleurs physiques dont vous nous parlez et qui sont terribles, vous vivez aussi une grande douleur psychique, morale.
C'est-à-dire que il faut savoir. Donc avec ce Covid long, c'est qu'effectivement, plus il est invalidant et plus il dure dans le temps, forcément, plus il sera éprouvant psychologiquement.
Vous avez même consulté un psychiatre, hein, je crois, vous, Mélissa.
Oui. Bah, je pense que à un moment donné, on est tous un peu démunis et désœuvrés face à tout ça. On comprend pas, donc on se pose peut-être aussi nous-mêmes la question est-ce que finalement, je suis pas en train de devenir un peu folle ? Donc oui, j'ai demandé une expertise psychiatrique. Oui.
Parce que vous aviez l'impression qu'on ne prenait pas vraiment en compte votre état quand vous disiez que vous étiez une maladie imaginaire.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, on m'a proposé des antidépresseurs pour essayer. Et donc je voulais pas prendre des antidépresseurs pour essayer. Je voulais prendre des antidépresseurs si j'étais dépressive.
Bien sûr.
Il me fallait une expertise pour ça. Et donc du coup j'ai pris l'initiative effectivement de prendre rendez-vous avec un psychiatre pour avoir un diagnostic psychologique. Ouais.
Professeur Salmon-Séron, que faut-il dire à Mélissa ? Elle a eu raison d'aller voir un psychiatre et est-ce que c'est bien qu'on puisse lui conseiller de prendre des antidépresseurs dans cette situation ?
Oui, je pense qu'elle a vraiment la tête sur les épaules. Moi, je comprends tout à fait les patients. Ils ont ces symptômes qui sont difficiles à comprendre pour eux, pas faciles non plus à interpréter pour les médecins. Donc, ils sont inquiets et ils sont incertains du lendemain. Ils se demandent s'ils vont retrouver leur état. Donc, si vous voulez, même si au départ, on n'est pas anxieux, ça rend anxieux. Et ça fait partie de l'aide qu'on peut apporter aux patients. On va leur donner des antidouleurs, des anti-inflammatoires, les aider à se rééduquer. Mais il faut prendre en compte de façon très importante cette anxiété et cette dépression. Je pense que Mélissa ne devait pas être dépressive avant. Ça a l'air d'être une personne très dynamique, qui sait bien ce qu'elle veut. Mais avec ces soucis, ça entraînait plutôt des signes secondaires.
Qui peuvent être très graves, qui peuvent conduire les gens à des extrémités parce qu'on n'a pas d'horizon dans cette maladie. C'est ça qui est terrible. Hein ?
Voilà, c'est ça. Donc là, il faut vraiment que les médecins soient vigilants à ces aspects psychologiques. C'est pas une maladie psychosomatique du tout, le Covid. Mais ça a des conséquences psychologiques
évidemment
importantes. Et il faut aider les patients à surmonter ces phases-là difficiles.
Alors maintenant, les médecins commencent à y voir un tout petit peu plus clair. En tout cas, ce sont des cas qu'ils commencent à connaître un petit peu. Je vois que vous haussez des sourcils, Cécile Monteil. Est-ce qu'ils sont suffisamment formés? Est-ce que finalement, ils savent qu'il ne faut surtout pas dire à ces patients Covid longs que ce sont des malades imaginaires? Ça ne fait qu'empirer les choses, hein.
Alors, heureusement, effectivement, maintenant, on commence à pouvoir... on sait que ce ne sont pas des malades imaginaires, puisqu'on a de nombreux patients qui décrivent toute une cohorte de symptômes très différentes, mais quand même qui se rejoignent. On arrive à peu près à les regrouper. Et si c'était juste un de façon sporadique, on pourrait peut-être dire que voilà. Mais là, pour le coup, c'est vraiment trop de personnes qui sont concernées par cette affection. Après, est-ce qu'on est assez formé? En fait, pour être formé, il faut avoir la connaissance. Et la Covid-19 est une nouvelle maladie. Et il y a des choses qu'on sait, mais il y a des choses qu'on ne sait pas et sur lesquelles on n'a pas de recul. Et je pense que pour les médecins, ça a toujours été quelque chose de compliqué d'arriver à expliquer aux patients qu'on ne sait pas.
Ouais.
Qu'on ne sait pas parce qu'on n'a pas les données. Parce qu'on a peur, je pense, d'être blâmé. On est censé toujours avoir la réponse à tout et on ne l'a pas. Et je pense que ce qui est important en ce moment, c'est de comprendre qu'il faut co-construire cette réponse ensemble. C'est finalement ces nouveaux patients, c'est eux qui ont la donnée. Et au corps médical de s'en emparer, il faut que les patients participent aux recherches, collaborent et nous aident en fait à découvrir comment fonctionne cette maladie et comment est-ce qu'on peut la soigner le plus efficacement possible.
Vous êtes d'accord avec ça, Mélissa? C'est à vous aussi, les patients, d'aller aider les médecins. Je sais que vous êtes administrative d'un groupe Facebook qui regroupe, je crois, plusieurs milliers de personnes.
C'est ça, oui, on est... Alors, je suis pas la seule administratrice du groupe, hein, parce qu'effectivement, il y a plusieurs milliers de personnes, donc on est une petite équipe. Effectivement, donc c'est un groupe de soutien essentiellement,
okay.
Parce que effectivement, moralement, on a aussi besoin de se soutenir les uns les autres. On a tous à un moment donné eu ce diagnostic de dépression qui a été posé sur la table. La plupart d'entre nous, on a effectivement une baisse de morale qui est liée finalement à notre état de santé et qui est contextuelle. Hein, donc oui. C'est important du coup de rejoindre ce type de groupe.
Oui, pour pouvoir parler, pour pouvoir communiquer et
c'est
partager.
C'est là où on va pouvoir se sentir compris en fait.
Et écouter.
Effectivement, c'est essentiel. Alors après, c'est toujours compliqué quand on est patient, quand on est malade, de dire à son médecin « Non, je ne suis pas dépressif. Je vous assure que je lui ai dit 30 fois. » Il a fallu une expertise psychiatrique pour qu'il accepte d'entendre que non, je n'étais pas dépressive.
Bon, écoutez, on vous souhaite beaucoup de courage, Mélissa. Merci beaucoup d'avoir témoigné
merci
ce soir en direct sur Europe 1. Je voudrais qu'on entende maintenant Bianca, qui vit en région parisienne et qui a 47 ans. Bonsoir Bianca.
Oui, bonsoir.
Merci à vous d'être en direct également avec nous. Comme Mélissa, vous avez eu le Covid en mars, c'est ça? Et vous avez vécu des moments aussi très douloureux avec des symptômes pulmonaires, notamment très préoccupants. Vous dites que vous aviez l'impression de respirer avec un sac en plastique en permanence sur le visage. Alors aujourd'hui, vous ne pouvez...
Ouais.
C'est ça, ouais?
Oui, je suis d'accord. Après, moi, je vais revenir un tout petit peu sur ce que j'ai entendu. J'ai un petit souci avec le côté forme prolongée du virus, parce que pour moi, la partie long Covid n'est pas à confondre avec la partie Covid, en fait. La partie
bien
COVID,
sûr, non, mais ce sont des choses. Mais je voulais qu'on parle un petit peu de votre Covid et ensuite de votre long Covid.
Ouais, je vais parler, ouais.
Donc, au début,
Covid.
Pardon, allez-y.
Alors, d'abord, ça a été mon fils qui l'a eu à l'école.
Et c'est ça qui est intéressant. Je voulais que vous nous parliez de votre fils parce qu'Adrien, il a 14 ans. On parle beaucoup moins des jeunes et parce que c'est lui qui a été le plus touché dans votre famille. C'est ça. Comment ça s'est passé pour Adrien?
Je pense qu'il y a pas mal de jeunes touchés par le Covid long. C'est plutôt des gens en bonne santé et beaucoup de jeunes qui sont touchés. Adrien, il a eu le Covid avec des symptômes assez neurologiques, plus que moi, plus neurologiques que moi, dans le sens où il avait des éruptions cutanées, des tremblements, des frissons. Il était vraiment... il avait l'impression qu'il allait mourir, mais il tout tournait, il avait envie de s'évanouir tout le temps, etc. Et ensuite, des maux de tête, etc. Mais ensuite, il y a eu une petite rémission. Et puis, il y a eu un deuxième temps qui est venue avec l'effort, avec le fait de reprendre l'école, de refaire des efforts. Et là, petit à petit, alors ça s'était pas vraiment complètement arrangé, mais moi j'avais mis ça sur effectivement ce qu'on appellerait la convalescence d'un virus, comme après une énorme grippe ou je sais pas quoi, on se dit pendant 2-3 mois on est cassé. Mais en fait c'est un deuxième temps, et ce deuxième temps c'est tout d'un coup, on n'est plus dans la convalescence, c'est juste pas possible. Et on arrive d'un moment où plus il y a d'efforts qui sont faits, plus il avançait dans l'école, moins il allait en cours, plus c'était dur de se lever, plus les symptômes revenaient, avec des symptômes beaucoup plus neurologiques cette fois-ci, des difficultés à finir une phrase, des difficultés à se concentrer, à savoir ce qu'il venait de dire, des maux de tête énormes qui partent de son front, et dès qu'il a un mal de tête, il arrive plus à, il perd son équilibre, il sait plus vraiment, parfois il doit s'asseoir, il s'est évanoui à l'école. Il a des éruptions cutanées énormes. Bon, bien sûr, la perte de goût, etc.
Mais ça, c'est encore aujourd'hui. C'est encore aujourd'hui.
Ah ouais, non, mais le problème de Adrien, c'est que par rapport à moi, qui a un peu les mêmes symptômes, parce que j'ai entendu symptômes récurrents et je suis assez d'accord. C'est-à-dire que des symptômes qui reviennent quand même beaucoup, comme les engourdissements des membres, les maux de tête, le brain fog, les déséquilibres, etc., ça revient très souvent et c'est effectivement invalidant. La fatigue, les coups de fatigue énormes qui peuvent arriver, on peut dormir n'importe où. Tout ça, ça arrive. Mais pour Adrien, lui, il est passé dans une troisième phase, que j'appellerais une troisième phase, qui va arriver, je pense, sur des Covid longs, hein, qui est en train d'arriver, qui est certains Covid longs, parce que pour moi, c'est une deuxième partie de maladie où le corps s'emballe, en fait, et où il doit avoir une inflammation de plein de... Bah, du cerveau, certainement, mais plein d'autres endroits, et qui, lui, arrive à une troisième phase où, là, il a une maladie peut-être à long terme, c'est-à-dire à vie. Derrière.
D'accord. Docteur Salmon-Séron, c'est fréquent. Pardon, je vous interromps deux secondes, Bianca, mais c'est intéressant d'avoir l'avis d'un médecin également. Docteur Salmon-Séron, c'est fréquent ce genre de symptômes, entre guillemets, première vague, deuxième vague, troisième vague, comme vit ce petit garçon de 14 ans.
Oui, ces Covid longs évoluent comme ça par des phases d'exacerbation, comme les témoignages l'ont bien montré. Des jours où on se réveille, on est bien, et puis tout d'un coup, on a à nouveau des symptômes qui arrivent. Et donc ça, c'est très caractéristique. Et dans les symptômes, il y a effectivement la fatigue, il y a ces signes thoraciques et les signes neurologiques qu'on vient de décrire là, avec cette espèce de brouillard cérébral, trouble de mémoire. Et je pense qu'il faut être très vigilant vis-à-vis des enfants à l'école. Hein. S'ils n'arrivent plus à suivre, s'ils décrochent, il faut se méfier. Je pense que c'est beaucoup moins grave chez l'enfant en général. Mais malgré tout, il doit y avoir aussi, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas certaines formes, au moins chez les adolescents. Peut-être pas les petits-enfants, mais au moins chez les adolescents.
Il a 14 ans, Adrien. Mais comment ça se passe, qu'on comprenne bien, Cécile Montel, la plupart des Covid longs, ils ont encore le virus dans le sang pour que ça leur donne tous ces symptômes?
Alors, pour rebondir sur les enfants, donc, ça a été décrit, des Covid longs chez les enfants. Il n'y a pas encore de littérature scientifique sur le sujet, donc c'est le tout début. Ce qu'on voit, c'est que c'est quand même assez sporadique, donc heureusement, ça ne touche que très 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 peu d'enfants. Après, quand ça tombe sur nous, bien sûr, c'est important et il faut qu'on le comprenne. Et ce qu'on remarque, c'est que voilà, à partir de l'adolescence, donc 14 ans, je pense qu'Adrien tombe dans cette tranche d'âge, à partir de l'adolescence, en fait, les symptômes se rapprochent tout à fait des Covid longs de l'adulte. Donc, qui évolue par poussée, avec des symptômes qui n'étaient pas forcément présents lors de la phase de Covid initiale et qui sont très handicapants et qui sont assez imprévisibles et effectivement auxquels il faut faire vraiment attention.
Il a quel suivi, pardon, aujourd'hui, votre fils, Bianca?
Alors, oui, alors moi, alors un des problèmes que j'ai eu, c'est l'école, c'est-à-dire qu'il a commencé à rater l'école de plus en plus, ouais, jusqu'à ce qu'il puisse pas du tout y aller. Et le long Covid étant, bah là, j'ai vu que la Haute Autorité l'avait reconnu plus ou moins, mais il n'est pas vraiment reconnu en termes de longue maladie. Donc, en fait, il n'a pas été pris en charge par le CNED ou quoi que ce soit, parce que pour les médecins du rectorat, ça n'existe pas. C'est quelque chose qui n'existe pas. Donc ça, c'est un des soucis. Il faudrait réfléchir quand même à ce que ça existe pour la vie courante, parce que quand un médecin dit « Ok, vous avez le long Covid », et ensuite, voilà. Alors, et la deuxième chose, dites-moi. C'est que lui, comme ça s'aggravait... J'ai vu une spécialiste, quoi, une virolopédiatre, qui a réfléchi aux autres virus, en fait, au MERS, au SARS-1, à la rougeole, à tous les virus qui pouvaient donner des choses neurologiques ou des choses, des inflammations multiples derrière. Et elle a fait un examen des anticorps. Et lui, il a un problème certainement maintenant un nouveau problème, une nouvelle maladie certainement grave. Voilà.
Bianca, je vous souhaite à vous aussi et à votre fils énormément de courage. Cécile Montaille, vous vouliez dire quelque chose?
Non, j'ai pas
à
répondu
Bianca.
À votre question tout à l'heure, c'est pour ça. Est-ce
allez-y.
Que le virus était encore présent?
Oui, pardon.
Alors, en fait, encore une fois, on aime bien avoir toutes les réponses, mais on ne les a pas. On pense que probablement le virus n'est pas présent et on voit d'autres virus qui sont comme ce Covid, qui stimulent le système immunitaire, qui répond parfois de façon inadaptée et qui peut provoquer une inflammation, des dérèglations dans le corps qui vont pouvoir donner ce type de symptômes. Hein, ça se voit avec d'autres virus.
Et c'est le cas de ce petit garçon peut-être, on disait.
Tout à fait, tout à fait. Et je suis très contente de voir que ce petit garçon, en fait, on ne peut pas juste dire c'est le Covid long. Il faut quand même aller chercher s'il n'y a pas effectivement d'autres pathologies et faire des examens. Ce n'est pas juste « ah oui, on dirait que c'est le Covid long, et ben, y a rien à faire, désolé, au revoir ». Ça, c'est très important. Mais après, est-ce que le virus n'est plus là? Est-ce qu'il n'est pas dormant quelque part? Je pense que c'est encore à montrer.
On ne le sait pas pour l'instant. Elle évoquait tout à l'heure, Bianca, la Haute Autorité de Santé, qui a mis effectivement aujourd'hui, Dominique Salmon-Séron, un outil à disposition des médecins, une sorte de petit guide, en tout cas des fiches techniques pour les aider à les prendre en charge. Par exemple, la fatigue est déclenchée par certains facteurs qu'il faut éviter, etc. C'est un mode d'emploi, ça va être bien utile, j'imagine, pour ces médecins.
C'est même une grosse avancée, à mon avis, parce que le fait que la Haute Autorité de Santé ait fait des recommandations sur les Covid longs, ça veut dire que c'est reconnu. Vous voyez, et donc, en plus, ces recommandations s'adressent aux personnes qui ont un Covid confirmé avec une PCR ou une sérologie, mais aussi à ceux qui ont eu un Covid probable. Et souvent, ces patients qui ont eu un Covid probable et ont des formes prolongées n'étaient justement pas crus. Donc là, c'est déjà vraiment une reconnaissance. Après, ce document...
Et ça, c'est très important,
c'est
la reconnaissance.
Extrêmement
c'est
extrêmement important, parce qu'on ne peut pas parler, si vous voulez, de prise en charge... en longue maladie, en maladie professionnelle, tant qu'il n'y a pas eu cette étape.
Pour l'instant,
et ça, je trouve ça très
courageux
de la Haute Autorité de Santé, parce que, comme le disait Dr Montaille, on ne connaît pas tout. Et malgré tout, on a fait ces recommandations. Donc, c'est un document en deux parties. Une partie qui s'appelle la réponse rapide, qui, l'objet, si vous voulez, c'est de dire le patient doit être pris en charge dans sa globalité. Le médecin doit écouter les symptômes sans juger. Et ensuite, essayer de les analyser, de faire un diagnostic, de donner un traitement. Et puis, il y a une seconde partie qui sont des fiches techniques, une dizaine de fiches techniques par symptôme. Donc, les gens qui ont un essoufflement, une fatigue, des douleurs thoraciques, des signes neurologiques, qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est pour les médecins, essentiellement, l'objectif est pour les médecins, mais aussi pour les kinés, les autres professionnels et pour les patients. Je pense que ça sera aussi repris pour
ça,
les patients.
C'est important, oui, bien sûr.
Juste encore une petite chose, c'est donc un document provisoire, c'est la première version. Hein. Peut-être que ça ne satisfera pas tout le monde et peut-être que le nom n'est pas encore le nom définitif. Hein. Ça va dépendre de ce que l'OMS va nous dire. Mais c'est quand même une étape majeure.
Alors, on a également Karine qui est en ligne avec nous depuis Mérignac, en Gironde. Bonsoir Karine.
Bonsoir.
Merci à vous également de bien vouloir témoigner. Vous avez 46 ans, 3 enfants et vous aussi depuis des mois vous souffrez de symptômes très invalidants qui viennent et qui repartent, dites-vous, hein, comme plusieurs de nos témoignages ce soir. On précise que vous étiez avant cet épisode une grande sportive qui faisait des ultra-trails. Vous avez consulté beaucoup de médecins et tous vous disent aujourd'hui soyez patiente. Hein. C'est terrible d'entendre ça.
Oui, c'est ça. Il faut être patiente et attendre parce qu'effectivement, ils n'ont pas de réponse à nos questions, en fait.
Alors, donc, vos questions à vous, moi, mais oui. Vous faites surtout beaucoup de soucis. Vous êtes très inquiète pour deux de vos enfants, notamment oui. Le petit Manoah qui a 12 ans et qui, dites-vous, est aujourd'hui l'ombre de lui-même. C'est terrible.
Oui. Oui, oui, Manoah, donc il avait 11 ans quand on a eu tous le Covid. Et là, à l'heure actuelle, voilà, il est en mi-temps thérapeutique à l'école, donc il n'est pas en capacité d'y retourner à temps plein. En novembre-décembre, il n'est pas du tout allé à l'école parce qu'il n'était pas capable d'y aller. Et effectivement, c'est l'ombre de lui-même dans le sens où il ne comprend... Enfin, il a beaucoup de brouillard cérébral, il ne comprend plus les exercices, il ne comprend plus les énoncés. C'est très compliqué, en fait, de faire les devoirs avec lui ou qu'il puisse se suivre en cours. Donc, quand il est reposé, ça va, il arrive à comprendre. Et dès qu'il est un peu fatigué, il ne comprend plus rien. À un moment, par exemple, juste le fait d'écrire son nom, il me disait « Mais maman, je ne sais pas comment faire ». Il ne savait même plus écrire son nom.
Donc, c'est vraiment très problématique. Et oui, ça, en tant que maman, ça m'inquiète parce que je ne sais pas quand est-ce qu'il va récupérer ses facultés, si ça va s'améliorer. Bon, ça s'améliore un peu, mais ça fait maintenant un an et le problème est toujours présent.
Alors, vous demandez, vous aussi, que le Covid long soit reconnu, y compris donc au niveau pédiatrique. Et vous demandez aussi, c'est un problème qu'on n'a pas encore évoqué, mais qu'on n'ait pas à faire l'avance des frais de nombreux examens, parce que forcément, ça coûte très cher. Vous a demandé de faire des prises de sang, des échographies, des radiographies, des scanners, j'imagine.
Oui, tout à fait. Mais moi, je suis en plus... ouais, je suis toute seule. Mes enfants, je m'en occupe seule. Mmh. Et je dois faire l'avance, donc on est trois, et je dois faire l'avance pour nous trois. Donc c'est très coûteux. On a trouvé quand même, par exemple, l'ostéopathie nous a beaucoup soulagés, mais voilà, il n'y a que deux séances remboursées par an par la mutuelle, par exemple. Ça, c'est quelque chose que on ne peut plus y aller à l'heure actuelle. Donc il y a beaucoup aussi de frais, voilà, les échographies, il faut faire l'avance pour tout le monde dans la famille, donc c'est très compliqué, surtout quand on ne travaille plus.
Oui, j'imagine. Merci infiniment. Bon courage à vous aussi, Karine, à tous ces malades qui nous écoutent, Cécile Monteil, professeur Salmon Seron. Quel conseil vous pouvez leur donner très rapidement pour conclure cette émission ?
Alors effectivement, entendre le fait de devoir patienter, c'est très difficile. Et il faut se faire accompagner sur le plan psychologique, hein, parce que c'est une bataille en fait qui est difficile à mener seule. Mais quand même, la bonne nouvelle, c'est qu'avec le temps, ça s'améliore. Et si tout le monde participe à la recherche et qu'on va arriver à trouver des choses, et l'idée, c'est quand même qu'on arrive à mieux prendre en charge cette forme chronique de la maladie. Donc essayons d'être positifs.
On va être positifs, c'est important. Oui, professeur Salmon Seron, vous y croyez, vous, on va trouver quelque chose, on va s'en sortir de ces Covid longs?
Oui, je pense qu'on va trouver. On a trouvé dans beaucoup de maladies chroniques et qui ont été vraiment complètement modifié, par exemple le VIH, l'hépatite, donc on va finir par trouver. C'est une question de temps.
Oui.
C'est vrai qu'on aimerait bien avoir l'antiviral qui marche, qu'on peut donner. Moi, à la différence du docteur Monteil, je pense que certains patients ont peut-être encore le virus qui continue à irriter. Il y a des signes inflammatoires, mais aussi des signes qui montrent qu'il y a quelque chose qui est toujours actif.
Il y a encore voilà. beaucoup de mystères, effectivement, mais beaucoup d'espoir. Et c'est là-dessus qu'on va terminer ce soir. Je vous remercie infiniment toutes les deux, professeur Salmon Seron, professeur Monteil. Merci également à Mélissa, à Bianca et à Karine pour leur témoignage très fort. Merci.
Europe 1, Isabelle Millet.
Et dans le Club des idées d'Europe 1, va maintenant plonger, comme chaque soir, dans les archives d'Europe 1. 3 minutes pour comprendre, pour éclairer l'actualité. Ça s'appelle Le Jour Où.
De faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà.
Bonsoir Jean-Sébastien Soldaini.
Bonsoir.
Ce soir, vous revenez sur la fatwa contre Salman Rushdie. Fatwa provoquée, on s'en souvient, par son livre « Les versets sataniques ».
Oui, c'est une tête mise à prix au nom de Dieu. 21 500 $, pas sur une affichette comme au Far West. C'est par un communiqué lu sur une radio de Téhéran que l'ayatollah Khomeini appelle, je cite, « tous les musulmans zélés à exécuter rapidement l'auteur des versets sataniques ». Cette fatwa, c'est un décret religieux, pas une condamnation, mais ça y ressemble. Si bien que l'auteur du livre est forcé de changer 56 fois d'adresse en 6 mois, pas de quoi le déstabiliser quand Jean-Bernard Cadier l'interroge pour Europe numéro 1.
Il faut renoncer le fatwa de Khomeini, dire qu'il n'y a pas d'argent qu'on offre pour ma mort.
Est-ce que vous avez peur ?
À ce moment, non.
Cette fatwa contre Salman Rushdie n'a pas de limite territoriale. L'ayatollah Khomeini veut faire appliquer sa loi partout dans le monde et voici ce que Jean-Daniel en dit dans un édito sur notre antenne.
On a eu l'air d'entendre un conte médiéval récité par un sorcier dans les souks obscurs et magiques d'une ville du Proche-Orient. Cela dit, comment expliquer le bruit, l'émotion, la fureur et quelquefois aussi le doute suscité par cette ridicule démesure.
La démesure, Jean-Sébastien, c'est bien ce qui caractérise cette fatwa et ses suites.
Exactement, parce que cette fatwa, comme le souligne l'équivalent des grandes voix de l'époque, Serge-Julie Alain Duhamel, intervient bien tard.
Ce livre sort en septembre 88 à Londres. Et le premier acte qui est pris n'est pas pris par le régime de Khomeini, il est pris par l'une des plus grandes démocraties du monde, à savoir la démocratie indienne. Qu'il y a ensuite des manifestations en Grande-Bretagne, en Arabie Saoudite.
C'est vrai que non seulement
Khomeini dans cette affaire est médiéval, mais que par-dessus le marché, il est en retard de 3 trains.
En retard, mais c'est lui qui met le feu. Les manifestations dans les autres pays ne faisaient quasiment pas de bruit, malgré les dénonciations de blasphème, les livres brûlés. Le guide suprême iranien mondialise l'affaire en quelque sorte et exploite le livre pour poser l'Iran chiite en défenseur numéro 1 de l'islam face à l'influence grandissante de l'Arabie sunnite. Et la preuve que l'ayatollah Khomeini instrumentalise l'affaire, c'est lorsque Salman Rushdie présente ses excuses. Ça ne change rien du côté de Téhéran. C'est comme cela qu'André Rousseau, alors correspondant d'Europe 1 à Londres, analyse la fin de non-recevoir de Khomeini.
L'attitude de Rushdie, en fin de compte, importe assez peu. Cette affaire est le prétexte saisi par les durs du régime islamique pour déstabiliser et affaiblir les modérés en vue de la succession de l'ayatollah Khomeini.
Alors, Khomeini est mort 4 mois plus tard, mais sa fatwa est toujours d'actualité et elle sert même de baromètre aux tensions en Iran.
Plus de 30 ans après, cette fatwa n'a toujours pas été levée. C'est impossible de lever une fatwa dans la tradition chiite. Donc elle existe toujours. Certains gouvernements modérés ont tenté d'apaiser les choses. Le président Khatami avait dit qu'il n'encouragerait plus les appels au meurtre de Salman Rushdie. Mais entre-temps, des conservateurs l'ont réactivé par le biais d'une fondation. La récompense n'est plus de 21 000 $, mais de 3,5 millions de dollars.
Eh bien, merci beaucoup. Le jour où, ce soir avec Jean-Sébastien Soldaini sur Europe 1.
Europe 1, Isabelle Millet.